Bonjour Abmo.
Bonjour Marie.
Alors aujourd'hui, on va parler du travail pénal. Alors justement, Abmo, tu mènes des recherches doctorales au Cameroun et tu t'intéresses au travail dans les prisons. Et moi, j'ai une première question. Est-ce que c'est une thématique récente ?
Pas du tout. L'histoire du travail pénal mériterait d'être inscrite dans une perspective historique. En Afrique, elle croise l'histoire de la colonisation. En recourant au travail pénal, les prisons ont fourni aux colonies une main-d'œuvre à bas coût pour les chantiers publics et privés, et plus largement de contrôler les populations, de les punir, y compris quand il s'agissait de. Y compris quand elles refusaient certaines contraintes administratives. Il existait par ailleurs au Cameroun des pénitenciers agricoles.
D'accord, mais et aujourd'hui, ce serait quoi la portée du travail pénal ?
À partir de l'Europe, Rusch et Kirchheim sont les premières personnes à s'intéresser à la relation travail-prison depuis les années 30. Pour eux, à un moment donné, à une phase de développement économique correspond à un mode spécifique de punition et de pratiques de mise au travail. Aujourd'hui, il importe de réfléchir aux différentes finalités du travail en prison.
D'accord. Et alors, tu me donnerais un exemple de justification contemporaine du travail ?
Oui, aujourd'hui, les États africains sont soumis à des demandes de nombreuses organisations internationales et des bailleurs de fonds institutionnels qui appellent à reconsidérer à reconsidérer l'état de droit. Les programmes concernant les prisons font donc partie de ces projets. Au nom de l'humanisation des conditions de détention, le travail devient en quelque sorte l'un des éléments des réformes carcérales au titre du travail de réinsertion et à l'encontre de la dimension strictement punitive de l'incarcération.
Et au Cameroun, ça se passe comment ?
Au Cameroun, dans une prison, des religieux ont créé, il y a de cela 13 ans, un atelier de menuiserie. En 13 ans d'existence, cet atelier a déjà pu former une soixantaine de détenus. Si le fonctionnement et le financement de cet atelier sont gérés par les religieux, dans l'archidiocèse, et principalement le service des œuvres caritatives, la sélection des détenus devant participer à la formation, les horaires de travail et la discipline incombent à l'administration pénitentiaire. En 2008, un financement européen a permis de créer un atelier de soudure et de couture. Le réaménagement de certaines prisons et la création des espaces de travail est justifié par une logique de rééducation et de resocialisation.
D'accord, donc le travail pénal sert à un projet de réinsertion.
Ce n'est pas si simple. On oscille entre plusieurs impératifs. Dans la suite du travail pénal colonial, le régime pénitentiaire camerounais de 1992 prévoit l'existence des prisons de production. On retrouve donc aussi la volonté de faire des détenus une main-d'œuvre au profit de l'exploitation territoriale. Plus récemment, certains bailleurs de fonds et les régisseurs de prison ont mis la réactivation du travail des champs comme une mesure d'amélioration des rations pénales. Donc, financer les activités agricoles reviendrait en fait à lutter contre la malnutrition et la sous-nutrition. De tels projets se heurte malheureusement à des évasions.
Tu veux dire quoi, là ?
À l'impératif de production comme à celui des réinsertions, se heurte l'impératif sécuritaire. Sortir de la prison pour aller travailler dans les champs n'est pas sans risque d'évasion. Cela a d'ailleurs conduit à une gestion genrée de ces activités. Au Cameroun, un régisseur a rédigé un règlement intérieur qui limite les sorties en corvée des femmes, après plusieurs femmes revenues enceintes.
D'accord. Mais alors, Michel Foucault, il nous explique que la prison est une institution à vocation disciplinaire. Là, tu m'as parlé d'évasion, de femmes enceintes, finalement de travail qui masque les carences de la prison. Donc, je suis un peu perdue.
Oui, je vais reprendre l'exemple de l'atelier des menuiseries. Son financement et son fonctionnement sont assurés par l'archidiocèse. Mais la sélection des détenus, les horaires de travail, la surveillance incombent à l'administration pénitentiaire. Mmh. Le responsable de l'atelier des menuiseries, qui n'est ni détenus ni agents pénitentiaires, fait d'ailleurs parfois face à des difficultés liées à sa double hiérarchie. On a d'un côté les régisseurs, de l'autre l'aumônier. Au tout début de la création de cet atelier, les religieux étaient associés au processus de sélection. En plus de l'évaluation de la motivation des candidats confirmés par le formateur, un des gardiens-chefs devait confirmer ou apprécier le bon comportement et la bonne moralité des détenus. Les religieux devaient, à leur niveau, à leur tour, inciter les détenus candidats à la formation à exprimer leur attachement à la foi chrétienne et à l'Église catholique. Depuis quelques années, avec le renouvellement du personnel, notamment le changement à la tête de la prison, les religieux ont été mis en marge du processus de sélection.
D'accord. Mais ce que tu démontres là, c'est une logique de sélection entre bons et mauvais détenus. Ceux qui sont réinsérables et ceux qui ne le seraient pas, ceux qui finalement seraient utiles à la société.
Une fois de plus, ce n'est pas si simple en fait. L'atelier de menuiserie, du fait de sa situation éloignée de la prison, à 4 ou 5 mètres de la prison, constitue aussi un espace de trafic et d'évasion. Depuis l'ouverture de cet atelier, 4 détenus qui s'y formaient se sont déjà évadés. Et beaucoup n'y viennent pas forcément pour l'amour du métier ou bien pour la formation, mais davantage pour trafiquer, profiter de la liberté d'aller et venir en ville et en prison pour faire entrer beaucoup de produits, des comprimés, des cigarettes, de la drogue. Dans d'autres prisons, on constate que les ateliers, au lieu de servir d'espace de formation, sont plutôt d'espace de travail pour les détenus déjà formés à un métier. Donc l'atelier produit de la richesse, mais pas des formations.
Alors, qu'est-ce qu'on doit penser du travail pénal ?
Dans les faits, les activités professionnelles sont rares en prison. En tout cas, elles sont insignifiantes comparées au nombre élevé de détenus. Le travail en prison relève davantage d'initiatives personnelles des détenus négociées avec les gardiens et la direction de la prison. On a des commerçants, on a des coiffeurs. Par exemple, quand il y a un coiffeur qui facture la coupe à 100 francs par jour, il peut coiffer 5 à 6 personnes, coiffer à la fois les gardiens et ses co-détenus. Avec cet argent, il peut s'acheter du savon, il peut s'acheter de la nourriture, il peut se faire aussi laver ses habits par d'autres co-détenus.
D'accord. Et dans d'autres pays ?
À la maison d'arrêt d'Abidjan, la MACA, en Côte d'Ivoire, par exemple, le conteneur qui reçoit les ordures est appelé Sokosé par les détenus du nom d'un grand magasin de la ville. Ce nom renvoie au fait que les détenus y récupèrent beaucoup d'articles qu'ils font recycler dans l'économie informelle de la prison. Ça peut aller des ventilateurs aux résistances électriques ou aux vieilles sandales en plastique usées jusqu'à la corde.
D'accord. Et ces activités, elles nous disent quoi de la prison, de son fonctionnement ?
Dans un contexte caractérisé par le manque, cette panoplie d'activités informelles génère beaucoup de revenus. Elle dote les détenus de certains statuts. Elle leur concède aussi une certaine influence dans la prison. Elles permettent aussi de pacifier l'espace de détention en tolérant leur existence, y compris quand il s'agit de trafics illégaux. Le travail, c'est aussi un ensemble d'activités qui, aux côtés des politiques de réinsertion ou aux côtés des programmes de travail, existent dans l'espace, dans les établissements pénitentiaires. Laver les habits de ses co-détenus, laver les motos des gardiens, par exemple. Bref, il faut penser à toutes ces nombreuses activités que les détenus effectuent en prison et qui génèrent beaucoup de revenus. Souvent, ces activités ne sont pas considérées comme un travail à part entière, mais elles gagneraient vraiment à l'être.
D'accord. Et j'ai une dernière question. Donc, tu as parlé d'ateliers de formation. Bon, on a compris qu'ils n'étaient pas suffisants, que certains détenus étaient déjà formés. Et moi, j'ai une question pour quand ils sortent de prison. Est-ce que, en fait, on a une certitude que ces personnes, qui deviennent donc des anciens détenus, eh bien, ils trouvent du travail ?
Bonne question. Qui forme-t-on ? À quoi ? Avec quelle perspective ? S'il est question de réinsertion, quel emploi trouveront ces anciens détenus, le plus souvent issus des quartiers populaires? L'on peut se demander dans quelle mesure leur incarcération ne relèverait pas davantage d'une logique de mise en écart ou de contrôle des économies populaires.
Ben merci, Apmo.
Merci, Marie.